Mardi 13 août 2019, il vient d'être 18h. Les programmes du studio Kalangou continuent avec le journal en français au micro Rukayat Abdraman. Au sommaire, 382 maisons effondrées à Gourée. Ce sont les dégâts causés par la pluie entre le 8 et le 11 août. Des précisions dans un instant. Le Hajj 2019 tire à sa fin avec la lapidation de Satan, la signification et la portée de ce rite du Hajj avec un prédicateur dans ce journal. La culture de courge, une activité lucrative exercée par les femmes, mais des efforts détruits par les hippopotames dans la commune de Karma, à suivre le reportage dans la partie magazine de cette édition. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Un blessé, 382 maisons effondrées, 237 ménages affectés, c'est le bilan provisoire des deux pluies tombées dans le département de Gourée, région de Zender, les 8 et 11 août 2019. Les détails avec le maire de Gourée, Mamadou Mari, joint au téléphone par Moussa Hassan.
Ce sont deux pluies, le 8 au soir et le 11 au soir. Et en totalité, on a eu 130 mm avec les deux pluies. On a eu 60 au départ et puis après on a eu 80. Et la deuxième pluie, elle est la plus importante parce que c'est elle qui fait 80 mm. Il y a eu un fort vent qui est venu. Ça a emporté beaucoup de tonnes, beaucoup d'arbres et tout ça. Là, c'est elle qui a fait les dégâts. Pour les deux pluies, on a 237 ménages qui sont affectés.
Donc à peu près combien de maisons estimativement?
382 maisons effondrées, hors d'état d'usage. Mais il n'y a pas eu de perte en vie humaine, il y a un seul blessé. Il n'y a même pas eu de perte d'animaux.
En 2017, le village de Borgotokoy, situé à 18 km au sud de Balayara, région de Tillabéri, était complètement inondé. À l'époque, les autorités locales ont construit une digue entre le village et les collines environnantes. Cette digue s'est effondrée vendredi suite aux importantes pluies enregistrées selon Seibou Niali, chef de village. Suivez son cri de cœur au micro de Saïdou Abdou Windentan.
Vraiment, la pluie d'avant-hier a détruit la digue qui a été construite. J'ai réuni tous les villageois et deux jours durant, nous avons essayé de le réparer. Ensuite, la pluie d'aujourd'hui a fait une brèche dedans. C'est pourquoi le village et la route sont inondés. Tout le village est rempli d'eau et même le goudron. Nous étions sur nos pieds depuis hier lorsque la pluie a cessé. Cette eau nous vient de l'est de Borgogoro. Tous les courriers qui descendent des montagnes de là-bas se rencontrent à Borgogoro pour couler dans la zone de Samarifandou et collecter d'autres courriers pour les conduire vers nos terres. Et même le marigot qui se trouve sur l'autre flanc du village, s'il se remplit, devient une grande mare qui s'étend jusque dans le village. Nous souhaitons vraiment que les autorités nous aident à solutionner ce problème, car cela dépasse nos moyens, parce qu'un être humain sans abri ne peut rien faire.
Le Hajj 2019 s'achève. Les pèlerins sont aujourd'hui à l'étape de la lapidation de Satan à Mina. C'est la dernière étape des rites avant que les pèlerins ne regagnent la Mecque. La signification et la portée de la lapidation de Satan avec le prédicateur Ben Salah depuis la Mecque au micro de Moussa.
La lapidation de Satan commence en effet le jour de la fête, le jour du grand sacrifice, le dixième jour de Zulhijja, qui consacre la fin du Hajj. Et ce jour-là, il est question de lapider la grande stèle de Satan. Mais véritablement, quand on parle de lapidation, ce sont les 11e, 12e et éventuellement 13e jours qui suivent le jour de la fête. Et Allah le dit clairement que celui qui fait les lapidations, les 11e et 12e jours, et prend ses bagages et rentre à la Mecque, et dans le droit et dans la sunna, aura véritablement accompli son hajj, n'a aucun compte à rendre par rapport à la qualité, à la viabilité, à la recevabilité de son hajj par le maître de l'univers. Quant à celui-là qui estime que non, moi, je vais faire les choses dans toute leur plénitude, je vais encore continuer à faire tel que le messager l'a fait, et je vais rester faire la troisième lapidation du troisième jour. Alors là, il passe une nuit supplémentaire. Je vous dis que c'est volontaire pour lapider le lendemain matin, donc, le 13e jour, et rentrer à la Mecque.
Propos recueillis par Moussa Harouna. 150 carcasses de taureaux remises aux personnes vulnérables des villages agricoles déficitaires de la commune rurale de Tagazar. C'était dimanche à Balayara, dans la région de Tillabéri. Un don pour permettre à ces démunis de célébrer la Tabaski. D'autres explications avec le président de la délégation spéciale de Tagazar, Al-Hassan Abdou, au micro de Hassan Moumouni.
ONG Turquie Diyanet Vakfi.
L'ONG de l'armée Turquie Diyanet Vakfi, c'est à travers son appui que nous avons organisé cette opération. Vous savez que l'élevage et l'agriculture sont les deux piliers de ressources à Tagaza. L'année passée, la saison pluvieuse n'a pas répondu à nos attentes. Il a été recensé environ 100 villages qui ont été affectés. 70 à 80% de ces villages, la situation a été alarmante. Pour ce faire, nous avons adressé une correspondance à cette ONG, car face à la situation relevée, plusieurs familles sont dans l'incapacité d'avoir la possibilité d'accomplir leurs devoirs religieux et d'immolation. Alors, nous avons demandé à cette ONG de nous apporter son appui pour que ces villages déficitaires soient appuyés. L'opération a concerné les formations sanitaires, les villes de Balayara, de Sandiré, de Tabla et l'association des handicapés. Ainsi, à Balayara même, l'opération a touché tous les quartiers de la ville.
Quatre militaires nigériens sont morts samedi à Bosso dans la région de Diffa. Information confirmée par une source fiable à Diffa, contactée par la rédaction du studio Kalangu. La première explosion est intervenue à 6 heures du matin au passage d'un véhicule de soldats sur un engin explosif improvisé. La seconde déflagration, le même jour à 18 heures et au même endroit, a tué 2 personnes et blessé 5 autres, toutes militaires. Le département de Kanké se porte très bien sur le plan sécuritaire, et ce grâce aux patrouilles mixtes et à la pleine collaboration des populations locales. C'est ce qu'a affirmé le préfet du dit département, El Hadj Sayabou Moussa, au micro de Mokhtar Hamadou.
Grâce aux actions menées par les autorités de la 7e République à travers l'appui régulier qui fait fonctionner donc nos patrouilles et nos services de défense et de sécurité, nous arrivons donc en tout cas à assurer la tranquillité et la quiétude de la population au niveau du département. Ceci, donc nous avons une patrouille mixte départementale qui sillonne l'ensemble du département. Nous avons une patrouille également frontalière qui s'occupe en tout cas de tout ce qui est sécurité au niveau de la frontière. À l'image donc du Conseil national de sécurité, nous avons un conseil départemental de sécurité qui tient son assise donc chaque semaine. Chose toute en tout cas qui permet d'assurer le bon fonctionnement des éléments au niveau des différents postes de contrôle à travers donc la vigilance que nous cessons en tout cas de rappeler aux différents éléments de l'exercice de leur mission. Donc ceci pour dire que le département de Kanché sur le plan sécuritaire se porte bien.
Au Niger, la loi n'interdit pas de porter secours à une personne victime d'accident ou même de la transporter avec les moyens de bord dans un centre de santé. Aussi, aucun agent de santé n'a le droit de refuser l'admission d'une personne victime d'accident dans un centre de santé sous prétexte que ce n'est pas le SAMU ou les sapeurs-pompiers qui l'ont amené. Précision avec Karaji Souleymane, responsable du service d'assistance médicale d'urgence SAMU. Il est au micro de Moutari Mahamadou.
Je ne pense pas que ça soit possible qu'un agent de santé puisse refuser une admission sous prétexte que ce n'est pas le SAMU ou les pompiers qui ont amené la personne. Par contre, les gens craignent des désagréments. Genre, tu es interrogé par le gendarme qui est là. C'est normal parce qu'un accident, ça peut souvent être mortel. Ou même les blessures qu'infligent ces accidents aux personnes victimes doivent faire l'objet d'une enquête judiciaire. Donc, c'est normal que l'agent de la gendarmerie ou tout autre officier de police judiciaire qui est là puisse poser des questions pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment, quand, etc. C'est tout à fait normal. Les gens ont aussi peur qu'ils ne soient obligés de participer aux soins. Ils sont en train d'assister à un recul de la solidarité. C'est ce que ça veut dire. Il n'y a pas de loi qui interdit d'apporter secours. Et même au besoin, s'il n'y a plus de secours disponible, de transporter le blessé à l'hôpital par vos propres moyens, ce n'est pas interdit.
Les services de l'environnement de Birnin Konni ont rencontré la semaine dernière les différents chefs de village. Objectif, prendre des mesures draconiennes afin de stopper le déboisement dans le département. Écoutons à ce sujet le directeur départemental de l'environnement, Moussa Iliassou, au micro d'Assoumane Moussa.
Ces femmes,
c'est les dégâts qu'elles font à travers la coupe des arbres. Et on les voit, puisque dans chaque village, le chef coutumier connaît bien ces femmes qui font ces dégâts. Les sages du village connaissent également ces femmes. Il ne faut pas se faire des illusions, pensant que ces femmes sont en train de faire des efforts en coupant des arbres. Ce n'est pas une bravoure, c'est un énorme dégât qu'elles causent sur la nature, pour la zone, pour la population tout entière, pour arrêter ce désastre. Nous avons sillonné partout avec les chefs coutumiers pour les sensibiliser. Pour leur faire comprendre la situation dans laquelle nous sommes, il ne faut pas que nous procédions à l'arrestation des femmes et qu'on dise que nous avons arrêté des femmes. Non, nous les avons averties. Eh bien, désormais, toute celle qui sera arrêtée par voie de fait, elle n'est que responsable de son acte.
Le soumbala est un produit très consommé au Niger car utilisé pour assaisonner les sauces et autres repas. Sa préparation nécessite une bonne maîtrise d'étapes ici détaillée par Hawa Jibo Tombokaina, une productrice de Birnin Gaouré, interrogée par Gungumama Dantani.
Pour faire du soumbala, on pile d'abord les graines. L'on procède ensuite à sa cuisson. On le laisse bouillir pendant longtemps. Quand c'est bien cuit, on le dépose. Le soir, on cherche des tiges de mil pour les brûler et on récupère le cendre pour le mélanger avec de l'eau. Puis, on le mélange avec le soumbala cuit. Une fois mélangé, on procède ensuite au filtrage pour récupérer le soumbala sec. Il est ensuite emballé dans un sac. On le conserve pendant 2 jours. Au deuxième jour, le soir, on procède au concassage. Le lendemain matin, on procède au séchage. Il est concassé une deuxième fois jusqu'à l'obtention de son huile. On l'étale pour qu'il soit complètement séché. Ensuite, on le ramasse pour le conserver. Ainsi, il devient prêt à être consommé. À chaque fois au besoin, il est utilisé dans les mis. J'ai appris la préparation avec ma grand-mère.
Et puis la partie magazine de ce soir, les femmes de la commune de Karma, à une trentaine de kilomètres à la sortie ouest de Niamey, s'adonnent à la culture de courge. Une activité lucrative mais freinée par les hippopotames qui détruisent de nuit les cultures. Notre reporter Balkissa Tahirou a rencontré une productrice du nom de Zalika Kalilou.
Je me nomme Zalika Kalilou.
Quand avez-vous débuté à cultiver la courge?
Ça fait plus de 10 ans que j'ai commencé cette activité.
Quel profit en tirez-vous?
Nous tirons beaucoup profit de cette activité. Nous payons des vivres et nous achetons des habits pour les enfants.
Le terrain qui vous sert de plantation vous appartient-il?
C'est quelqu'un qui nous a confié son champ. Nous produisons et après la vente, nous remettons la rente au propriétaire.
Comment faites-vous ce travail?
Au début, nous l'arrosons à la main. Quand ça commence à s'étaler, nous utilisons une motopompe pour continuer l'arrosage et cela chaque 3 jours.
À combien vous arrose-t-on cette plantation?
Il y a des gens qui t'arrosent cela à 1500 et d'autres le font à 2000 francs. Je gagne bien ma vie à travers cette activité. Je réalise un chiffre d'affaires journalier qui varie entre 10 000 et 15 000 francs.
Quels sont les problèmes que vous rencontrez dans ce travail?
Ce sont les hippopotames qui nous rendent la vie impossible. Elles quittent le fleuve pour venir dans nos jardins brouter notre production.
Toutes les femmes de ce périmètre se plaignent des dégâts causés par les hippopotames. Comment cela s'est-il passé à votre niveau?
Les hippopotames ont brouté tout ce qu'elles ont trouvé au passage dans mon jardin. Elles ont d'abord brouté 3 planches dans mon jardin. Ensuite, elles ont également brouté toutes les courges prêtes à être récoltées. Vous voyez, mes voisines qui sont de l'autre côté, elles ont ravagé toute leur production. Toutes les femmes productrices de courges se plaignent des dégâts causés par les hippopotames dans leur jardin. Nous sommes des pauvres femmes qui produisons la courge pour pouvoir subvenir à nos besoins. Et voilà que les hippopotames viennent brouter tout ce que nous avons produit. Chaque année, nous sommes victimes de ces genres de dégâts. Mais cette année, les dégâts ont atteint le stade de paroxysme. Nous sommes des pauvres citoyennes qui vivons le jour au jour. Ils arrivent même que nous rencontrions les autorités pour leur exposer nos problèmes. Mais en vain, nous n'avons pas eu gain de cause.
Quel est votre appel à l'endroit des autorités?
Nous lançons un appel aux autorités afin qu'elles nous viennent en aide. Vraiment, nous souffrons. En plus, parmi nous, il y a des veuves qui ne vivent que de cette activité. Et maintenant que les hippopotames ont ravagé nos cultures, nous ne savons plus à quel sein nous vouer. Nous voulons que l'État, les autorités communales et les bonnes volontés nous viennent en aide. Sinon, comment des pauvres femmes comme nous allons survivre? Nous souhaitons que Dieu nous assiste. Si ce n'est pas pour trouver à manger, pourquoi allons-nous risquer nos vies pour aller cultiver la courge sur des îles?
C'est la fin de ce journal. Merci de nous écouter. Dans un instant, le forum du studio Kalangou sur l'implication des communautés dans la prévention et la gestion des catastrophes cas des inondations avec Alassane Kouzi Mamadou. Bonne réception.
Suivez les programmes du studio Kalangou partout dans le monde grâce à sa page Facebook.
La page Facebook du studio Kalangou.
J'aime et je partage.